Troisième partie pour ce Radio Barque numéro 28, Guy Sier, comme nous disions en début d'émission. Alors Guy Sier, maire de Fleury, on veut peut-être commencer par là, puisqu'on s'est quitté sur la succession possible à Narbonne, la succession possible à Fleury, sachant que vous avez dit, monsieur Sier, clairement, que vous ne vous représenteriez pas.
Oui, bonjour d'abord à tous les auditeurs. En ce qui concerne ma situation personnelle, j'ai été élu la première fois en 1989.
Donc 30 ans.
Aujourd'hui, ça fait 30 ans, à 4 années près ou 3 années près, que j'exerce des fonctions municipales. D'abord 2 fois premier adjoint, 1 fois conseiller municipal et 2 fois maire. Donc 30 ans au service de ma collectivité, j'ai beaucoup donné en temps, je ne le regrette pas. C'était un retour par rapport à ce que m'a apporté ma commune quand j'étais jeune. Donc je ne regrette pas tout ce que j'ai fait pour ma commune, mais j'ai maintenant 72 ans. Il faut savoir raison garder. La commune de Fleury n'est pas une petite commune. C'est compliqué avec des flux de population de 4000 à 45 000 résidents l'été, avec un territoire extrêmement vaste, 3 lieux urbanisés.
Très varié, oui.
Donc il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour gérer tout ça. Et donc, si j'ai encore beaucoup d'énergie aujourd'hui, et je vais la mettre au service de la fin du mandat, je ne me sens plus aussi gaillard pour finir à 80 ans à la direction des affaires municipales.
Voilà,
je veux éviter le syndrome Bouteflika.
Voilà. Donc la vie municipale vous a aussi inculqué une certaine sagesse, semble-t-il. Alors on va revenir peut-être tout à fait sur cet aspect, la configuration tripartite, on peut dire, de cette commune, mais ça veut dire vous partez, vous le dites clairement, et on sait très bien que lorsque quelqu'un qui est au pouvoir s'en va, ça crée un appel d'air, ça suscite des ambitions. Alors, qu'en est-il ? Parfois, quelqu'un qui s'en va a ménagé, a préparé sa succession. Est-ce que c'est le cas pour vous, Guy Sier ?
Alors, bien sûr que je jouerai un certain jeu.
Vous avez des souhaits quand
dans
même.
Dans la campagne à venir, bien sûr. Il y a cependant un problème à Fleury. C'est que à ce jour, il y a 5 candidats déclarés tête de liste. Et il est possible qu'il y en ait 2 de plus si le Front National monte une liste et si le groupe Mélenchon ou la gauche monte une autre indépendamment du candidat socialiste.
Ce qui ferait 7.
Ce qui pourrait donner lieu à 7 têtes de liste et à 7 équipes de 27 élus. Donc ça ferait 189 personnes dans Fleury, avec 4000 habitants l'hiver, qui auraient vocation à exercer des fonctions municipales.
Bon,
la façon
dont vous le présentez, Guy Sier, laisse penser que ça se réalisera pas de cette façon-là, quand même.
Non, il y a souvent loin de la coupe aux lèvres, et vous le savez, la politique, c'est un sport particulier.
Oui.
Ça veut dire qu'il faut un capitaine, comme au rugby, il faut une équipe, 27 conseillers, mais ce sont les supporters qui gagnent le match. Et donc, l'équipe est souvent désignée par de petits groupes qui se cooptent les uns les autres, mais après, il faut que les supporters suivent derrière et remportent l'élection. Et souvent, il y a loin de la coupe aux lèvres, du souhait du chef, du capitaine, de la tête de liste à la constitution d'une équipe cohérente et efficace.
Voilà, beaucoup de choses imprévisibles, beaucoup d'impondérables, donc ça ne se passe pas forcément tel que le chef l'avait écrit sur son scénario.
Tout à fait.
Alors revenons sur cet aspect, justement, cette configuration tripartite hein, de votre commune. Il y a Fleury, le village languedocien, on va dire, classique,
oui.
Saint-Pierre-la-Mer, la station, et puis les cabanes de Fleury,
c'est
pas rien aussi.
Oui.
Donc ce sont 3 entités, ça pourrait presque faire 3 communes, finalement.
Oui, c'est 3 villages qui font une seule commune.
Oui, voilà.
C'est le fruit de l'histoire. Bon, c'est vrai que la première implantation, d'ailleurs, de Fleury, avant de se regrouper autour de l'église, elle était en limite de Vinassa à Marmorière. autour de l'étang, de l'ancien étang séché au Moyen-Âge, de Marmorière. Il y avait plus d'habitants, 1000, autour de Marmorière qu'à Fleury. Puis l'église a été créée et le village s'est constitué. Saint-Pierre s'est développé bien plus tard. Les Allemands avaient enlevé tout le monde de Saint-Pierre, avaient fait évacuer Saint-Pierre. Il y avait, quand j'avais 20 ans, seulement 100 résidents à l'année à Saint-Pierre. En 1967, il y avait 100 résidents à l'année à Saint-Pierre. Aujourd'hui, il y en a 1400 à peu près.
Difficile à croire.
Voilà, et 30 000 l'été. Quant aux cabanes, il y avait, c'est le contraire. Aux cabanes, il y avait une école, il y avait 200 pêcheurs, 200 personnes avec les pêcheurs. Aujourd'hui, il y a 120 habitants à l'année. Mais il y en a 5 000 l'été. C'est ça qui est difficile dans la commune de Fleury, ces fluctuations de population entre l'hiver et l'été.
Ce qui forcément demande des infrastructures particulières du fait de cette saisonnalité.
Tout à fait. Par exemple, la commune est dotée de 120 employés municipaux. Si on était 4000 habitants, seulement tout au long de l'année,
ça ferait beaucoup.
Il y en aurait 20. Voilà. Oui. 25. Par contre, l'été, on est 45 000 résidents. 120, ça suffit pas. Il faut s'adjoindre des saisonniers. Donc, c'est ça qui est compliqué à gérer.
Donc, c'est une sorte d'écartèlement continu.
Permanent. Il faut s'adapter à la situation, au mois, voilà, à la situation liée au calendrier. On monte en puissance régulièrement. Déjà, là, maintenant, nous sommes à 15 000 résidents. Déjà, maintenant.
Déjà, aujourd'hui, fin avril. Quoi.
Voilà, on sera à 20 000 en juin et à 45 000 en juillet et août.
Oui, alors donc, voilà, ça, ce qui situe un petit peu la difficulté de gérer cette commune très disparate finalement. Alors la commune de Saint-Pierre, plus exactement la station de Saint-Pierre, commune de Fleury, il y a une trentaine d'années avait fait parler d'elle dans quelque chose qui est devenu un scandale et qui est devenu une calamité pour la ville, c'est la fameuse bulle, cet observatoire sous-marin. Vous avez récemment exprimé, monsieur est la volonté d'éradiquer, je crois que c'est le terme que vous employez, d'éradiquer cette bulle de Saint-Pierre pour la supprimer et aménager. Revenons quand même un petit peu sur ce qu'a été cet épisode, alors fort malheureux à terme, pour la commune.
Oui, alors à l'origine, dans le cadre du développement économique du Languedoc-Roussillon, avait été annoncé le projet NISA.
Années 80, par là?
Dans les années 83-84. Le projet NISA visait à créer la 7e station du littoral parce qu'on avait été oublié par la mission Racine. Donc, il y avait 6000 lits de prévus dans une cité lacustre aux cabanes et 25000 lits de l'autre côté, lits touristiques, dans la cité de Vendres.
C'était à cheval sur l'Aude
et
l'Hérault.
À cheval des deux côtés de l'Aude, sur l'Aude et l'Hérault, à l'embouchure.
Oui.
Il était prévu également le caravansérail, une plateforme multimodale à l'endroit où l'autoroute franchit la rivière. Et il était prévu la gare TGV à Nissan-les-Anserunes. Et donc une voie qui desservait la gare TGV vers les plages, avec passage sur le barrage Antissel.
Voilà, alors un somptueux projet qui ne s'est pas réalisé.
Et à la baguette, il y avait Guillaume Castro, l'architecte des banlieues, pour réaliser ce projet, dont les deux départements étaient associés. Et est venue, dans le cadre du projet NISA, l'idée de créer un événementiel important pour le bicentenaire de la Révolution française. Et c'était la bulle de Fleury. Alors ce projet, au début, était séduisant. C'était un projet qui devait être inauguré, la bulle devait être inaugurée au 1er janvier 1989 pour le bicentenaire, avec la présence de François Mitterrand, président de la République, élu depuis le mois de mai, à l'intérieur de la bulle pour donner ses vœux aux Français. L'idée était que, depuis 200 ans, des progrès avaient été accomplis, les bateaux traversaient les mers, les avions passaient par-dessus les montagnes, et que donc, dans 200 ans de plus, l'espace serait peuplé et la mer serait habitée. Donc, ils avaient dit, on va figurer ça.
Mais c'était de la science-fiction.
On va réaliser le rêve de Jules Verne et la maison du capitaine Nemo. Donc, on va mettre une bulle métallique à base de métaux, de métal et de verre sous la mer, dans laquelle les gens descendront et verront les poissons qui tournent autour d'eux. Et puis, pour montrer aussi qu'on pourra vivre sous la mer, on va réaliser, par exemple, des expériences genre cloche à plongeur, où le plongeur peut quitter son scaphandre si on envoie de l'air comprimé.
Il y avait tout ça
contenu. Sous la mer. Et aussi, comme l'espace sera habité, il y aura des communications de scaphandre sous-marin à scaphandre dans l'espace. Bon, voilà ce qu'était le projet. Oui, alors,
est-ce qu'on peut redescendre un peu sur Terre, voilà. Monsieur Sier.
Bien sûr, ce projet a eu beaucoup de déboires, mais le principal était le dérapage financier.
Au départ, qu'il y a quelque chose qui s'est fait et qu'il a fallu payer.
Tout à fait. Au départ, il devait en février, il devait coûter exactement 12 millions de francs. On était en francs à l'époque.
En février 88.
En février 88. 12 millions de francs. En mars, 18 millions de francs. En mai, 45 millions de francs. Et à l'échéance, en décembre, 60 millions de francs.
Et c'est ce qu'il a coûté. Donc, véritablement
c'est véritablement ce qu'il a coûté. Il était, ce projet était porté par les plus hautes instances de l'État, puisque dans le scaphandre sous-marin, il devait y avoir l'architecte de la mer, Rougerie, qui a construit l'observatoire. Et dans l'espace, il devait y avoir son beau-frère, Jean-Loup Chrétien, qui était
astronaute
en collaboration avec les Russes, avec la station.
Alors cosmonaute, station
spatiale, voilà. Ont d'ailleurs réalisé la communication de scaphandre sous-marin à scaphandre dans l'espace, mais en dehors du premier de l'an, quoi.
Oui, voilà. À l'inauguration, il y a eu quelque chose comme ça. Je me souviens fort bien personnellement. Oui.
Voilà. Par contre, ils n'ont jamais réussi à clarifier l'eau de la bulle. Ce qui devait rester à la commune, l'observatoire sous-marin où on aurait l'impression de vivre sous la mer, n'a jamais fonctionné. On a fait six études importantes avec Socrate, Marine Land Antibes, etc., pour essayer de la faire fonctionner.
Tout disait,
il faut pratiquement tout reprendre, et ça va vous coûter autant que ce que vous y avez mis.
Voilà.
Donc, fiasco financier, 60 millions de francs, 9 millions d'euros, dont 6 millions payés par la commune de Fleury et ses contribuables.
Voilà. Et alors aujourd'hui...
Parce que tout le monde s'est débiné après.
Oui, oui. Sauf ceux qui ont dû payer.
Voilà. Aujourd'hui, on a sur la plage une friche touristique qui ressemble à un bassin de décantation. Et les gens croient que c'est la décantation de Saint-Pierre et qu'on envoie les eaux usées de Saint-Pierre dans la mer. Donc il faut remettre la plage dans son état, parce que ça a aussi d'autres effets. Cela ensable le rocher emblématique de Saint-Pierre, qui est sorti de la mer depuis des temps immémoriaux, depuis des millions d'années, et qui était un haut lieu.
Un repère, un peu.
Un haut lieu sur la côte sablonneuse du Languedoc. C'était la seule avancée rocheuse dans la mer entre le cap de Leucate et la Franquille.
Voilà. Alors entre
la Franquille et Agde. Voilà.
Alors pour faire court maintenant, Guissier, vous souhaitez l'éradiquer.
On souhaite qu'on remette la plage à l'état.
Voilà.
Qu'on bouche le trou et qu'on remette la plage à l'état.
Voilà.
Qu'on mette en valeur le rocher de Saint-Pierre.
Voilà. Et vous avez demandé des financements, notamment à l'agglo.
On a demandé des financements à l'état au titre du plan littoral 21, également à la région, au département et à l'agglo. Tout le monde à ce jour s'est engagé à venir. Ils nous ont demandé de séparer le projet en deux morceaux. C'est un projet qui coûterait 900 000 euros pour éradiquer la bulle et remettre la plage en état, et 900 000 euros de plus pour continuer le promenade au plus près de la mer, devant ce qui est le bâtiment de la mairie annexe, et relier le rocher de Saint-Pierre par un platelage pour le tourisme futur.
Et est-ce que vous voyez aboutir ce projet?
Alors, pour les 900 premiers, les 900 000 euros de la première partie du projet, l'éradication de la bulle, tout le monde s'est engagé. Financièrement, l'affaire avance, on est dans l'attente des courriers de confirmation.
Voilà.
On ne les a pas encore reçus, mais ça devrait être imminent.
Donc voilà peut-être un scoop, peut-être que enfin on va redécouvrir le rocher et on va recouvrir la bulle de Saint-Pierre. Alors Guissier, une situation qui est assez cocasse également, c'est celle qui se situe sur le au niveau du tourisme, puisque il y a un office communautaire, Fleury fait partie du Grand Narbonne, un office touristique communautaire, mais il y a dans parallèlement à cet office donc trois communes de l'agglo du Grand Narbonne qui ne font pas partie de cet office. Alors bon, vous-même, vous avez souvent protesté contre cet état de fait qui est un petit peu encore une bizarrerie assez farfelue.
D'autant que le président de cet office intercommunautaire est le président, en fait, est le maire d'une commune qui a gardé effectivement sa compétence tourisme.
Donc qui s'y retrouve? Est-ce que vous y retrouvez, monsieur Sier?
Alors bon, tout le monde sait que le tourisme est une compétence partagée. Il y a un tourisme local, un tourisme du Grand Narbonne, la Narbonnaise en Méditerranée, un tourisme départemental avec l'eau de Pays Qatar, etc.
Et
tourisme régional.
Dont la région est censée être le chef de file.
Voilà, donc c'est une compétence partagée, le millefeuille reste.
Ah oui, encore, des strates un peu partout.
Je ne suis pas opposé à cela. Ce qui est aberrant, c'est que la commune de Fleury, avec sa station balnéaire de Saint-Pierre-la-Mer, possède 8000 résidences secondaires. C'est pour les touristes. C'est celle qui accueille le plus de touristes. C'est une de celles qui perçoit le plus de taxes de séjour liées au tourisme sur la côte. Or, on n'est pas surclassé station touristique.
Comme les trois autres communes.
Comme Le Cat ou Gruissan ou Narbonne. La raison en est que, avant 1989, le maire Montagnier, conscient que le tourisme pourrait porter préjudice aux gens de conditions modestes d'ici, ou du secteur proche, Toulouse, Mazamet, Castres, etc., avait voulu faire de Saint-Pierre une station où les pauvres pourraient aussi aller à la mer.
Oui, donc il avait développé ce qu'on appelle du social.
Quoi. Voilà, où les gens de conditions modestes. Il avait développé la para-hôtellerie autour des Girelles, des Romarins. Il avait développé l'hôtellerie de plein air. Nous avons deux campings municipaux. Et il avait aussi développé les Merlets, Ribourel, Catherine Mamet et d'autres.
Oui, donc un tourisme social voulu.
Un tourisme abordable, disons, pour les gens de conditions modestes ou moyennes. Et puis, il n'a pas développé d'hôtel de grand standing. Et la para-hôtellerie, avec 500 chambres en para-hôtellerie, fait que quand un hôtel est susceptible de s'implanter à Saint-Pierre, il a un peu de mal. Il craint la concurrence. Or, faute d'hôtel, on n'est pas surclassé station touristique. Voilà. C'est une idiotie, quoi.
Encore un truc administratif bizarre.
On a quand même 8000 résidences secondaires. Donc, à 3 personnes dedans, ça fait, ou 4, ça fait 32 000 personnes. Et faute de pouvoir héberger 52 personnes en hôtel, on n'est pas classé sur ces stations. Mais c'est dommageable parce que les subventions ne sont pas les mêmes.
Bien entendu, ne sont pas les mêmes. Mais voilà une tentative encore d'explication. Et on va conclure là-dessus, Guissier. Justement, vous avez dit clairement que vous allez abandonner donc la vie municipale après une longue expérience. Quel regard portez-vous sur l'avenir des communes, justement, dont on s'aperçoit que dans les communautés d'agglomération, elles sont parfois, même si c'est pas forcément volontaire, elles sont parfois malmenées.
Deux choses à ce propos. D'abord, je suis favorable au principe de subsidiarité. Il y a des choses que les communes peuvent faire. Avant de transférer leurs compétences, on doit réfléchir, est-ce que la commune a les moyens de bien exercer cette compétence? Je vais en donner deux exemples. Qui, mieux que maire, peut savoir quelle est la partie de sa commune qu'il est le plus judicieux d'urbaniser,
oui, par
en
exemple.
Fonction de l'écoulement des eaux, des réseaux, etc. D'accord. Si on délègue ça à une strate supérieure et que la commune soit mal représentée au niveau de cette strate supérieure, donc je suis pas forcément pour le transfert de la compétence plus à la strate supérieure. Ça peut se discuter. Ça, voilà. Mais là, j'y serais favorable à la deuxième raison que je vais expliquer tout à l'heure. Un deuxième exemple. On décide au niveau national de passer les routes secondaires à 80 km à l'heure. Les maires savent quelle est la portion de commune, de route dans leur commune qu'il faut passer à 80 et quelle on peut laisser à 90. On pourrait le gérer comme ça.
Bon, et on a vu que quand ça se passe pas comme ça, on a vu les résultats que ça donnait.
Oui, oui, bien sûr. La raison, donc, je suis pas favorable, je suis pas hostile, moi, hein, aux agglos, aux départements, à l'État et à l'Europe. Pas du tout.
Encore faut-il que ça fonctionne.
Encore faut-il que ça soit démocratique. Je me méfie de la démocratie pyramidale. J'ai été dans les pays de l'Est. À chaque élection, les représentants du Parti communiste dans les pays de l'Est faisaient 95% de voix. Et puis, le peuple les a déposés à un moment donné de l'histoire. Donc, si on veut que l'agglo prenne le pas sur les communes, il faut que l'agglo soit l'expression démocratique du désir des citoyens. Ça veut dire que on ne va pas mettre une commune, une voix, parce que c'est anormal qu'une commune de 300 habitants ait une voix et qu'une commune de 1500 en ait aussi une. On va demander aux gens qui se présentent à l'agglo de constituer des listes avec des représentants des bourgs-centres, des représentants des communes et un électeur de l'agglo, une voix pour la liste. À cette condition, je suis pour le transfert d'un certain nombre de compétences à l'agglo s'ils sont susceptibles de mieux exercer la compétence que la commune.
Voilà. En fait, le suffrage universel, y compris pour les agglomérations, voilà. Ce qui est d'une logique imparable, sauf que ça n'existe pas à l'heure actuelle. Voilà. Merci pour ce témoignage, en tout cas, Guissier. Le prochain invité sera un autre maire, monsieur Devic, Bernard Devic, qui est maire de la commune de Caves, mais qui a aussi la particularité d'être président du PNR, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, pour ne rien oublier.
Dont la commune de Fleury fait partie.
Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.